L'esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, en public et en direct, du studio 105 de la Maison de la Radio, studio rempli de gens qui sans doute se rendaient au Parc des Princes, mais qui se sont arrêtés chemin faisant pour assister à l'Esprit public, qui va essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, avec l'aide de Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, de Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Jean-Louis Bourlange, essayiste, et de Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser au Parti communiste, à la CGT et à ce qui se passe autour de l'un et de l'autre. Le 37e congrès du Parti communiste français qui s'est tenu à Aubervilliers pendant 4 jours, début juin, avait pour tâche la préparation des élections présidentielles de 2017, la remobilisation des militants et la redéfinition de la ligne du parti. 3 textes constituant le projet de base commune adopté presque à l'unanimité par le Conseil national du parti en mars n'ont été finalement approuvés que par une courte majorité des militants, 51,2%. Ce faible score traduit les divergences de vues avec Pierre Laurent, reconduit comme secrétaire national du parti et partisan de l'organisation de primaire à gauche. Le secrétaire national voudrait établir une feuille de route vers la constitution d'ici début novembre d'un front populaire et citoyen qui désignerait un candidat porteur d'une alternative à la politique du gouvernement socialiste. Ce processus passerait d'abord par la rédaction d'un pacte d'engagement citoyen avec des partenaires politiques comme le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et certains frondeurs du Parti socialiste. Faisant fi de cette stratégie, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle dès le 10 février, refusant toute perspective de primaire à gauche. En 2012, le Parti communiste s'était rallié à Mélenchon qui avait obtenu 11,1% des voix. Sa direction s'oppose désormais à cette candidature autoproclamée, mais le parti, avant de désigner éventuellement son propre candidat, ne peut que se souvenir que Marie-George Buffet ne recueillit en 2007 que 1,9% des suffrages. Le déclin du Parti communiste est ancien, il comptait 710 000 adhérents en 1981, 125 000 en 2004, pour descendre à moins de 53 000 aujourd'hui. Le score de Jean-Luc Mélenchon en 2012 n'a pas entraîné de bénéfices politiques pour le PCF. Aux élections législatives de la même année, son nombre d'élus a été divisé par 2, lui laissant à peine de quoi former un groupe à l'Assemblée nationale. Malgré cette désaffection, la présence du parti continue à être forte, mais au niveau local. La mobilisation contre la loi travail, dont le PCF a grossi les rangs, pourrait pour certains communistes être le moteur d'un regain d'influence. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a été accueilli avec enthousiasme lors de son passage au congrès du PCF le 3 juin. La convergence entre l'organisation syndicale et le Parti communiste est particulièrement forte dans ce contexte de revendication sociale, alors que la CGT appelle à continuer la mobilisation. Sur cette question, Thierry Pech.
Je pense qu'on est dans un moment de recomposition des gauches radicales sous la pression d'un contexte où le gouvernement socialiste a épousé une ligne assez clairement social-démocrate et a éloigné de lui les composantes les plus hostiles à cette perspective. Parmi ces composantes, bien sûr, le PC, mais aussi la CGT, mais aussi, on en a parlé il y a peu de temps, Europe Écologie Les Verts. Dans ce contexte-là, la situation du PC, comme celle de la CGT, souffre d'une hésitation stratégique. Dans le cas du PC, c'est très ancien. Au fond, le PC a stratégiquement hésité entre la participation au gouvernement, ou la participation en tout cas à une culture de gouvernement avec les socialistes, et puis des moments de rupture. Dans le premier mouvement, il y a eu 81, il y a eu la majorité plurielle avec Jospin, et puis les autres mouvements, en général, ont succédé de peu aux dates que je viens de rappeler. La CGT est un peu dans la même situation. La CGT hésite depuis un certain temps entre la participation à un syndicalisme de négociation, de discussion, ce qu'elle fait souvent sur le terrain. Ces syndicats de base négocient beaucoup dans les entreprises où ils se trouvent, et puis un syndicalisme d'opposition vers lequel le Front de Gauche en particulier voudrait l'attirer, car le Front de Gauche est de plus en plus présent dans les rangs de la CGT. Vous disiez que la CGT était très proche du PC. En réalité, elle l'est aujourd'hui tout autant, par ses effectifs, en tout cas les plus jeunes, qui ne sont pas les plus nombreux, malheureusement pour elle, elle l'est tout autant de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que la vraie force en train de se construire dans ce paysage, ça n'est bien sûr pas le PC, c'est Mélenchon. Et je voudrais m'y arrêter un instant, parce que Mélenchon a choisi de façon absolument déterminée pour tenir son meeting de Stalingrad, qui est son grand meeting d'entrée en campagne, le même jour que le jour du congrès du PC, précisément. Et on peut dire que les médias ont été plus attentifs à ce qu'a dit Mélenchon qu'à ce qui s'est dit, et que vous avez rappelé, Philippe, au congrès du Parti communiste. Qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon ? Moi, j'ai souvent été ici, vous vous en souvenez peut-être, réticent au discours qui consiste à symétriser le front de gauche de Mélenchon et le front national de Marine Le Pen en disant ce sont deux populismes, en les renvoyant deux ados. Mais enfin, là, je dois dire qu'il y a eu deux déplacements qui infléchissent mon jugement. Le premier déplacement, qui est tout à fait décisif dans le discours de Mélenchon, c'est son éloignement vis-à-vis de la question européenne, vis-à-vis de l'idée européenne. Il a dit très clairement à Stalingrad qu'il fallait revoir les traités, voire en sortir. Ça, il a franchi une ligne rouge. Jusqu'ici, il ne l'avait pas franchi. Il était resté dans l'ambiguïté. Deuxième franchissement, il a tenu un discours très écologiste. Il a tenu un discours très... Il a même parlé de sortie du nucléaire, etc. Alors évidemment, on voit bien ce qu'il veut faire. Il s'agit de dépecer ce qui reste d'Europe Écologie Les Verts, et en tout cas des militants qui se sentent les plus à gauche. Mais ces deux franchissements font de Mélenchon aujourd'hui un candidat réellement populiste de gauche, dont la cohérence idéologique est improbable. Il est populiste, jacobin, vert, anti-européen. Je ne sais pas s'il peut sortir quelque chose de cohérent de tout ça, mais ça a une cohérence stratégique. Parce qu'effectivement, c'est aller chasser sur les terres des gens qui sont en colère, qui sont déçus de l'Europe et qui ne voient pas dans le gouvernement actuel une force susceptible de faire progresser les idées écologistes ou d'autres idées.
Michaela Wiegel.
Oui, je vois comme une clé de lecture de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, son livre qui était vraiment, heureusement, qui n'a pas trouvé un très grand public, le harangue de Bismarck, mais qui annonçait exactement ces deux déplacements, comme Thierry Pech vient de dire, c'est-à-dire d'un côté, une critique à outrance de l'Allemagne sur un plan écologique, ce qui était quand même assez original. Et de l'autre côté, clairement aussi un appel à sortir de cette Union européenne dominée, selon Jean-Luc Mélenchon, par l'Allemagne. Et donc, on voyait très bien déjà dans ce livre se dessiner toute cette stratégie. Alors, ce qui est fascinant quand on regarde un petit peu la situation des deux gauches en France, on voit quand même un parallèle entre ce qui s'est passé en Allemagne au moment de l'agenda 2010 entre la SPD et la fondation de ce grand parti Die Linke, qui est en fait un mélange entre des anciens de la RDA, donc des continuateurs, et d'ailleurs la dispute continue. Est-ce qu'il faut dire que la RDA était un état de non-droit, ou est-ce qu'au contraire il faut s'en serrer dans ce passé, et justement tous les gens de la SPD qui n'étaient plus d'accord avec la politique proprement social-libérale que menait Schröder. Et on est resté aujourd'hui donc avec ce parti assez bizarre puisque très hétérogène et qui n'a pas réellement su trouver un fond idéologique très clair. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur la gauche du PS aujourd'hui. On ne voit pas très bien comment justement ceux qui restent Europe Écologie Les Verts, qui étaient quand même très pro-européens, comment ils peuvent se mettre avec des gens comme Mélenchon. En fait, ça crée pas... C'est vrai, il y a une frustration avec la politique gouvernementale des socialistes ou en Allemagne à l'époque de la SPD au pouvoir, mais ça ne crée pas automatiquement un fond... très cohérent au niveau des idées. Alors, ce qui est fascinant, c'est que quand on regardait les dernières élections en Allemagne, on se disait, mais quand on fait les comptes, pourquoi il n'y a pas eu de coalition au pouvoir entre la SPD, les Verts et Die Linke ? Parce que mathématiquement, ils auraient eu aussi une majorité. Et en fait, c'est là, il y a un État où c'est le cas, c'est la Thuringe, où on a une telle coalition aujourd'hui au gouvernement, mais c'est là où toute la question comment on se positionne vis-à-vis des crimes du communisme joue un très grand rôle. Pour former ce gouvernement en Thuringe, il a fallu que la partie régionale de la Linke fasse, c'est une exigence des Verts et de la SPD, fasse une déclaration officielle en disant la RDA était un état de non-droit et nous ne voulons pas s'insérer dans cette continuité. Et je pense que cette clarification-là, le PCF, comme Jean-Luc Mélenchon, ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire ils n'ont jamais clairement pris position vis-à-vis de ce qui était réellement le communisme dans d'autres pays.
Sylvie Kaufmann.
Oui, c'est assez symptomatique que, pour parler, alors qu'on doit parler du Parti communiste, on parle beaucoup de Mélenchon, finalement. Et votre question à l'origine, je crois, c'était quel avenir pour le Parti communiste. Franchement, je crois que le Parti communiste se porterait mieux s'il n'existait plus. En réalité, Mélenchon, son héritage, et je m'entends, je ne veux pas dire que... je ne parle pas du fond, je parle de l'organisation. Son héritage serait plus facile à transmettre, en réalité, parce que si on reprend, et je vais suivre un peu le fil qu'a commencé à tirer Michaela, si on reprend l'histoire, quel est le fondement de la légitimité du Parti communiste ? C'est d'abord la résistance et c'est l'URSS, le communisme appliqué. Le premier point, la résistance, reste relativement incontestée. La participation du Parti communiste, enfin des communistes, à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, le deuxième pilier, s'est effondré, il est totalement discrédité. Et je dois dire, le PC n'a effectivement pas fait tout le travail. Si on prend à l'étranger le Parti communiste italien, lui, il avait tiré les leçons de cette expérience bien avant même l'effondrement, bien avant la chute de l'URSS, puisque vous souvenez, Enrico Berlinguer avait opté pour l'eurocommunisme, et puis le Parti communiste finalement a décidé de sa propre dissolution avant même, je crois que c'était en 91, mais c'était avant la chute de l'URSS, avec le tournant de Bologne sous la direction de Occhetto. Voilà, mais certaines de ces... Il a disparu en tant qu'organisation, mais certaines de ces idées ont été transmises dans la gauche italienne. On les retrouve dans la gauche italienne. Et il existe même aujourd'hui une fondation Enrico Berlinguer. Je crois qu'on imagine difficilement une fondation Jacques Duclos. Hein. Voilà. Si on prend le cas espagnol, par exemple, bon, lui, il s'est maintenu, mais Santiago Carrillo, qui a tourné le dos au dogme, qui a épousé l'Europe, etc., a été traité de social traître en son temps. Et aujourd'hui, par ses camarades, et aujourd'hui, le Parti communiste espagnol, qui est fondu dans une sorte de front de gauche espagnol, la Izquierda Unida, n'a plus qu'un seul député. Voilà, même en Russie, j'allais dire en Union soviétique, même en Russie, le Parti communiste, ça n'est plus rien. Ça existe encore, nominalement, mais ça n'est vraiment plus grand-chose. Voilà, donc on a, nous, notre Parti communiste français qui est resté le Parti communiste et qui effectivement, se débat maintenant dans cet anachronisme et qui n'a pas dénoncé. Vous savez, moi, j'étais, je me souviens d'un voyage que j'ai fait quand j'étais jeune correspondante, lapsus terrible. À Moscou, à la fin de l'Union soviétique, et j'avais passé quelques jours sur un bateau de croisière soviétique. Ça a l'air d'un oxymore, mais ça existait. Ça s'appelait le Dmitri Shostakovich, et qui occupait la cabine luxe, comme on dit en russe, Monsieur et Madame Georges Segui. Et donc c'était ça aussi, le Parti communiste et la CGT. Le secrétaire général de la CGT était membre du bureau politique du Parti communiste. Voilà. Donc tout ça, voilà, c'est quand même assez étrange d'avoir encore aujourd'hui une organisation qui s'appelle le Parti communiste. Et donc qui reste assez prisonnière de sa logique d'appareil. On voit bien là dans l'opposition entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui, surfe sur cette nouvelle dynamique sociale dont profite aussi beaucoup Philippe Martinez. C'est lui qui a été la star, finalement, de ce 37e congrès du Parti communiste. Eux ont bien compris qu'il y a quelque chose, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette contestation sociale, cette espèce de bouffée d'énergie, mais qui ne profite pas au Parti communiste, qui continue à être une micro-organisation, qui reste polarisée sur la présidentielle, alors que de toute évidence, son intérêt, c'est plutôt d'essayer de s'accrocher à son implantation territoriale et locale. Mais comment y arriver organisationnellement, si je puis dire, c'est là toute la question. Ils sont très prisonniers de cette logique.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je ne résiste pas au plaisir de citer une anecdote de l'époque de 46. Juste à la fin de la libération et début des grèves insurrectionnelles, il y a un déplacement ministériel avec Félix Gouin, président du gouvernement, socialiste, Georges Bidault, MRP et Maurice Thorez. Et alors arrive Félix Gouin dans une magnifique... Bidault dans une magnifique voiture. Et alors la foule communiste à côté dit « Espèce de salaud, tu te goinfres avec l'argent du peuple, etc. » Suivi de Gouin dans la même voiture, magnifique, etc. Espèce de social trait, tu lâches la classe ouvrière. Arrive en troisième position Maurice Thorez, même voiture. T'as vu notre Maurice, il est bien dans sa belle auto. Et cela dit, je voulais effectivement revenir un peu à la situation fondamentale du Parti communiste dans l'histoire. Qu'est-ce que c'était que le Parti communiste? Il y a ce qui s'est voulu et ce qu'il a été, et ce qu'il ne peut plus vouloir et ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Ce qu'il a voulu, on voit très bien, c'était un parti révolutionnaire. C'était assez simple, il y avait un camp socialiste international mené par l'URSS, avec des forces considérables, militaires, politiques étrangères, policières, sociales, etc. Et l'idée, c'était de faire la révolution avec des méthodes, les méthodes léninistes, c'est-à-dire un parti de révolutionnaires professionnels qui étaient destinés à prendre le pouvoir par des moyens, je dirais pas comme Léon Blum, par tous les moyens, même légaux, mais par tous les moyens, même insurrectionnels, et derrière cela, une vision de la société extrêmement précise, c'est-à-dire la classe ouvrière qui était destinée à devenir la classe universelle, qui s'identifiait à l'ensemble du salariat. C'était l'époque de James Burnham et des managers, et les managers pour la CGT et pour le Parti communiste, ils faisaient partie du salariat, ils étaient du côté des opprimés, ceux qui ne touchaient pas la plus-value. C'est pas tout à fait comme maintenant dans le patronat. Bon. Et derrière tout ça, il y avait le mythe soviétique du peuple tout entier. Alors là, l'idée, c'était de faire la révolution. Ils ont essayé, par des moyens différents, et sans y croire vraiment d'ailleurs, ni la première ni la seconde fois, ils ont essayé, avec les grèves insurrectionnelles, qui en fait étaient dans l'esprit de Staline un abcès de fixation, c'était pas destiné à subvertir le pouvoir, mais à consolider les avantages à l'Est, et ils ont essayé en fait avec le programme commun, car quand on voit l'analyse que faisait Georges Marchais du programme commun de gouvernement par rapport à Mitterrand, il y avait toute cette idée, c'était un parti qui dominait de très loin la gauche, qu'on allait enclencher un processus, puisque la grande idée à l'époque, c'était que le socialisme, ce n'était pas un modèle. Le modèle, c'est fait pour les cathos. C'était un processus révolutionnaire et qu'on allait donc enclencher un processus qui conduirait à la prise de pouvoir. Et on sait que Mitterrand s'y est opposé avec un certain succès. Ça, c'était le... Bon, mais en réalité, le parti communiste et la CGT ont incarné la version française de la social-démocratie. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie ? C'est trois choses. C'est d'une part l'unité du mouvement ouvrier, l'unité syndicale et politique du mouvement ouvrier. Là, c'est le contraire de la charte d'Amiens qui proclamait l'indépendance des syndicats anarcho-syndicalistes de tradition, proclamait l'indépendance des syndicats par rapport au parti. Là, c'est le parti courroie transmission. Donc il y a une subordination de la CGT à un calcul politique global qui n'est pas forcément, loin de là, un calcul révolutionnaire. Deuxièmement, le deuxième aspect de la social-démocratie, qu'on méconnaît quand on confond avec le social-libéralisme, c'est la centralité. C'est une négociation qui se fait au niveau central, où on a un pouvoir politique, un pouvoir patronal, un pouvoir ouvrier, et ça donne des accords comme les accords de Matignon, comme les accords de Grenelle. Ça a été la quintessence de la République gaulliste. Hein, le partage, le condominium gaullo-communiste, avec d'ailleurs un pouvoir culturel important, c'était Malraux et Jean Villard, si je puis dire. C'était les maisons de la culture, c'était les recteurs, c'était le recteur Capel, l'application par Fouché, en réalité, du plan Langevin-Vallon. Il y avait tout ça derrière. Et en même temps, il y avait l'idée que on tenait le coup, et on tenait le coup comme on l'a montré en mai 68 avec les accords de Grenelle. Et la troisième chose, c'est le réformisme, le troisième élément de la social-démocratie, c'est le réformisme, c'est-à-dire qu'en réalité, le Parti communiste et la CGT servaient à socialiser les bénéfices de la croissance. Donc on recyclait, on dit, bon, ça, c'est fini. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est à quel point tout ce système a complètement volé en éclats. C'est-à-dire que en termes de rapport à la politique, ça n'est plus du tout ça. D'ailleurs, il y a quelque chose de très significatif. C'est que Martinez était obligé de côtoyer avec une notion aussi étrangère à la tradition communiste, à la tradition cégétiste, que la notion de grève générale, qui est une notion anarcho-syndicaliste à l'état pur. C'est l'ensemble des producteurs du pays qui bloquent le pays et qui montrent, indépendamment de tout relais politique, qu'ils ont le vrai pouvoir. C'est du Pelloutier, c'est du Sorel, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on... Bon. D'autre part, à côté, il y a le réformisme, en disant, nous, on fait pas de politique, on fait des trucs dans les entreprises pour obtenir satisfaction. Deuxièmement, sur le plan des méthodes, il y a une hésitation profonde, justement, entre deux formes qui sont également étrangères à la tradition communiste, c'est-à-dire le réformisme CFDT, on négocie dans l'entreprise des trucs qui sont totalement déconnectés de la politique et on discute, bon, une tradition un peu chrétienne, et puis, deuxièmement, une tradition d'action directe, zadiste, etc., qui est très dangereuse. Et troisièmement, sur le plan sociologique, et c'est fondamental, et c'est là où on retrouve Mélenchon, sur le plan sociologique, on a une fuite de la classe ouvrière qui passe massivement avec armes et bagages du côté du Front National. Et donc, une hésitation et chez Mélenchon, une combinaison devant laquelle Pierre Laurent manifestement cale, qui est de dire, d'une part, je m'adresse à la classe ouvrière, et c'est ce que dit très justement Thierry, y compris dans sa dimension xénophobe, Front National, etc., parce que j'ai pas envie de me faire avoir deux fois par Marine Le Pen, et ça, les communistes, ils ont quand même un surmoi un peu plus prononcé, et deuxièmement, j'utilise, alors, les nouvelles formes, toutes les minorités, sexuelles, LGBT, écologistes, féminines, c'est une minorité majoritaire, mais c'est quand même une catégorie particulière, les jeunes, etc., tout un ensemble d'un électorat dispersé auquel je m'adresse. Et donc, Pierre Laurent est suspendu dans le vide, en face de cette OPA dans lequel tout lui échappe.
Thierry Pêche.
On fait tous partie d'une minorité majoritaire.
Oui, bien sûr.
Dû à un titre.
Notamment à Esprit Public.
Voilà.
Est-ce que la minorité majoritaire.
De plus en plus minoritaire, mais ardemment majoritaire d'esprit.
Donc, je crois que la minorité majoritaire voulait dire quelque chose.
Après toi, Thierry.
L'esprit public refuse de procéder par catégorie. Nous serons peut-être là. Il n'en reste qu'un.
Archaïsme.
Thierry Pêche.
Trois observations. D'abord sur la CGT. Louis Vianney, qui a piloté cette organisation quelque temps, a eu un rôle historique qui a été de la déconnecter du PC. Et il l'a fait. Et avant, Il faut se souvenir que les unions départementales de la CGT étaient presque toutes habitées par un responsable du parti. Et donc la courroie de transmission se faisait de cette façon-là, comme l'a rappelé Jean-Louis. Thibault, après Vianney, a poursuivi sur ce chemin, mais sans arriver à réformer son organisation. Je crois que c'est ça qui a été frappant dans le mandat de Thibault, c'est qu'il a incarné cette ligne déconnectée du PC, mais en même temps, il n'a pas permis à son syndicat de se transformer réellement. Et donc, on arrive avec Martinez dans la dernière phase, qui est la phase où les hésitations se payent. Et je crois que la présence de Martinez au congrès du PC est un faux nez. La vérité, c'est que ceux qui sont en train d'entrer à la CGT aujourd'hui n'ont rien à voir avec la culture du PC. Ils ont beaucoup plus à voir avec la culture de Mélenchon et ils ont beaucoup plus à voir avec des tentations qui relèvent effectivement davantage de la tradition anarchiste ou de la tradition des Sorel, des Pelloutier. C'est pour ça qu'il y a des appels à la grève générale aujourd'hui dans les congrès de la CGT. Un dernier mot, Philippe, quand même, sur un autre point. C'est que on peut faire la description de cette culture communiste comme l'a fait Jean-Louis en disant qu'en gros c'était une culture de quasi co-gestion dans un certain nombre de segments de la société, de l'appareil de production. Bon,
sans compromission,
c'était bien sans, fait. Sans compromission, si on veut. Bon, je crois si on dit ça, on fait l'impasse sur deux choses. C'est qu'il y a eu quand même en même temps que ce que vous dites, un dévoiement intellectuel du communisme. Moi, je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec Jean-Pierre Vernant, il y a bien des années de ça, qui m'avait expliqué, j'étais étudiant à l'époque, il m'avait dit, vous savez, il ne faut pas confondre. Avant-guerre, on avait des communistes dans l'histoire. Après-guerre, on a eu intellectuellement des communistes du livre, qui étaient tout à fait autre chose, et qui ont, d'une certaine manière, radicalisé l'expression idéologique du communisme en France, alors même que ses pratiques n'étaient pas du tout de cette nature-là. Et l'autre phénomène qu'il faut pointer, c'est que si le communisme s'est effondré, c'est pas simplement parce que de mauvais choix politiques ou idéologiques ont été faits, c'est parce que sa base sociologique s'est effondrée. Si on regarde ce qu'est la classe ouvrière industrielle potentiellement dans la société française entre 1960 et aujourd'hui, c'est un effondrement presque comparable à ce qu'a été l'effondrement de la paysannerie française entre 1945 et 1975. Et donc il n'y a plus cette base pour construire une contre-société comme avait voulu le faire le communisme municipal, pour le dire d'un mot, des banlieues rouges.
Michaela Wiegel.
Oui, dans cet excellent descriptif de ce que Jean-Louis Bollange vient d'appeler la social-démocratie à la française, il me manquait quand même un élément que je pense est très très important, c'est la subordination quand même du PCF au désirata de Moscou, c'est-à-dire c'était quand même un lien de dépendance très très fort et qui a, en se dissolvant, justement, a aussi créé, c'était concomitant avec aussi la perte de la base électorale du PCF, mais ce lien manque aussi aujourd'hui, ils ne savent plus où recevoir leurs ordres. Alors, sur cette dimension-là, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui me manque beaucoup quand on regarde les relations franco-allemandes habituellement, qu'il y avait justement, sous cette inspiration de l'URSS, beaucoup de jumelage entre des villes, des communes communistes avec des villes en ancien RDA, en RDA. Et ça, c'était une espèce d'amitié franco-allemande étrange parce que, comme vous le savez tous, la RDA avait toujours dit, nous, on n'a rien, on est le bon État allemand. C'est-à-dire, nous, on n'a pas à se confronter avec le passé nazi parce que chez nous, on n'a que les résistants. Donc, nous, c'est pas notre problème. Donc, il n'y avait pas besoin de leur côté d'une réconciliation, en quelque sorte, avec la France. Et donc, ces jumelages, c'est très étrange parce que après la chute du mur, on en a très peu parlé. Il y en a beaucoup qui se sentent auto-dissolus. Et je veux, par exemple là, ce week-end, a été signé un nouveau jumelage entre Potsdam et Versailles. Alors que, pendant des longues années, Potsdam a été jumelé avec Bobigny. et donc,
pauvre
ça
Frédéric.
On voit toute cette dimension-là qui fait aussi partie d'une histoire un peu plus compliquée qu'elle ne paraît à première vue.
Sylvie Kaufmann.
Voilà, tout est dit, Bobigny, Versailles. Juste une petite chose, nous avons parlé des échecs institutionnels et de l'incapacité à la fois du PC et de la CGT à réformer l'organisation. Il y a aussi, il faut bien souligner, je crois, le vide idéologique. Si vous regardez le discours de Pierre Laurent à la fin de ce congrès, il appelle, et c'est un grand appel aux citoyens à écrire à mille mains, comme il dit, le programme d'engagement commun sur lequel on peut fonder une candidature. Enfin, la réalité, Thierry disait tout à l'heure que la vraie force en train de se construire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dirais la vraie force en train de se construire, c'est le Front National. Et donc, cet exode, cette hémorragie terrible des troupes du Parti communiste, enfin des électeurs du Parti communiste vers le Front National, c'est ça le vrai défi, à la fois pour ce parti et pour Mélenchon, c'est de récupérer à la fois la France insoumise dont parle Mélenchon, mais aussi les électeurs du PC qui sont partis vers le Front National. Et pour ça, il faut leur donner quelque chose.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, juste un mot sur effectivement, que signifie Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? C'est pas du tout évident. Parce que Olivier Duhamel le disait récemment dans une émission, je crois qu'il a tout à fait raison, il y a un écart total entre le message idéologique, qui est un message 6e République, pouvoir parlementaire, pouvoir collectif, pouvoir du parti, et l'affirmation de la fusée Mélenchon, qui est totalement égocentrique, personnelle, médiatique, qui se fiche de tous les appareils, à commencer par celui du Parti communiste. Il n'a pas de parlementaire, il est aussi individualiste que Bayrou, ou que Jean-Jacques Servan-Schreiber, à la bonne époque. Donc tout cela est étrange, et il est évidemment totalement servi par un immense talent. D'ailleurs, je dois faire des excuses, car je me suis fait critiquer, parce que j'ai eu des échanges courtois. Ah, bon. J'avais prêté des sentiments pro-schistes, ce qui n'est pas dans mon esprit une injure, à Mélenchon, et je crois que j'ai pas retrouvé le texte auquel j'avais fait allusion. Il est possible que dans mon esprit embrumé, j'ai pris une déclaration de Montebourg pour une déclaration de Mélenchon, ce qui est quand même assez grave. Mais enfin, le productivisme était quand même, ce que j'ai dénoncé, c'était le productivisme par rapport à l'écologisme, parce que ce qui est très frappant chez Mélenchon aujourd'hui, c'est à quel point il prend toutes ses distances à l'égard du productivisme, il fait la course aux écologistes, sur le nucléaire, surtout, il s'éloigne absolument de tout. Donc il y a un côté bulle médiatique dont on ne sait pas du tout si ça va vraiment tenir le coup. Pour l'instant, il est tout près de Hollande et il a un talent, il a un immense talent. Mélenchon, il parle, il a de la culture, il parle bien, il est drôle, il est séduisant quand il n'est pas violent. Parce qu'il y a un côté, moi j'ai fait des débats avec lui, il y a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand on est dans la salle où on se fait peinturlurer pour la télévision, là, le plus charmant des garçons. Oui. Et c'est le Dr. Jekyll. On arrive dans le studio, Mr. Hyde. C'est terrible. Mais enfin, il a un très grand talent. Mais est-ce que ça va pas faire quand même quelque chose de très bizarre face à Hollande et Pierre Laurent qui dit, qu'est-ce qu'il veut Pierre Laurent? Il sait qu'il ne peut pas être leader et il se dit, je voudrais simplement les miettes. Que les partis, je fais un peu d'opposition, mais pas trop. Et les socialistes me donnent un peu de siège, mais pas trop.
Ce qui a mis le plus mal à l'aise les partisans de Jean-Luc Mélenchon dans notre émission de dimanche dernier, c'est pas ce que vous avez dit sur le supposé et en l'occurrence irréel soutien de Mélenchon à l'exploitation des gaz de schiste. C'est ce que nous avons dit sur le Venezuela. Et là, j'ai quand même été frappé parce que j'étais ramené en arrière à une époque où le Parti communiste était sensiblement plus puissant et surtout l'Union soviétique sensiblement plus puissante. Et j'ai vu arriver sur ma boîte de courriel, j'ai vu arriver exactement le même type d'argument, c'est-à-dire aucun argument, rien pour défendre le président Maduro, je reconnais qu'il est difficile à défendre, mais que des choses pour dire qu'il était clair que les participants à l'esprit public buvaient tous les matins un bol de sang des ouvriers et qu'il leur était promis un sort funeste dès que le peuple aurait enfin pris le pouvoir. Là, il y a quelque chose dans l'entourage de Mélenchon qui est à la fois très antipathique et relativement inquiétant.
Le vrai problème de Maduro, c'est quand on le voit paraître à l'écran, on ne sait jamais si c'est lui ou Martinez.
J'ai peur, Jean-Louis, qu'il n'y ait que vous qui ait ce genre de confusion en tête. Personnellement, Non, je crois que vous vous trompez, Jean-Louis, quand vous dites que c'est un succès médiatique, le succès de Mélenchon. Ça n'est pas un succès médiatique. Il apparaît finalement assez peu dans les médias depuis quelques temps. Il construit son succès sur autre chose. C'est pour ça que c'est plus intéressant pour ceux qui le suivent et plus préoccupant pour ceux qui le contestent.
Je vous remercie. Je vous propose que nous ne nous attardions pas davantage. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets et que nous nous intéressions aux primaires américaines après le dernier Super Tuesday. Mardi dernier, les résultats du vote dans 6 États, dont le plus peuplé du pays, la Californie, ont confirmé la position prééminente d'Hillary Clinton dans le camp démocrate et de Donald Trump dans le camp républicain. Hillary Clinton a souligné sa qualité de première femme à obtenir le nombre de délégués nécessaires pour représenter un parti dans l'histoire des États-Unis. Le président Obama a fait part de son soutien en jugeant qu'il n'y a jamais eu de personne plus qualifiée qu'Hillary Clinton pour exercer la fonction de présidente. Ils tiendront d'ailleurs un meeting commun cette semaine dans le Wisconsin. Son concurrent à gauche, Bernie Sanders, a d'abord prévenu qu'il maintiendrait sa candidature jusqu'à la convention du Parti démocrate à Philadelphie du 25 au 28 juillet. Toutefois, sa rencontre avec Barack Obama jeudi a fait bouger les lignes et le sénateur du Vermont a pour la première fois laissé entrevoir un rapprochement possible avec Hillary Clinton. Barack Obama l'a félicité pour sa campagne qui a contribué, je cite, à rendre le Parti démocrate plus fort et l'Amérique plus forte. Beaucoup moins soutenu par son parti qu'Hillary Clinton, Donald Trump n'emporte pas moins les principales revendications du Green Old Party, modification de l'Obamacare, la réforme de la santé menée par le président Obama, mais aussi de l'accord signé lors de la COP21 à Paris ou de celui sur le nucléaire avec l'Iran. Cherchant à ratisser large, Donald Trump a souligné les points communs entre son programme et celui de Bernie Sanders, évoquant notamment le rejet des accords internationaux et insistant sur leur rejet commun de et par l'establishment incarné par le camp Clinton. La bataille entre Clinton et Trump se déroule en grande partie sur les réseaux sociaux où la communication laisse place à l'invective côté Trump ou à l'apostrophe côté Clinton. Rappelant le projet du magnat de l'immobilier de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, la candidate démocrate a énoncé un nouveau slogan de campagne « Les ponts sont meilleurs que les murs ». Le dernier vote aura lieu après-demain dans le district fédéral de Columbia à Washington. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, on peut voir dans la continuité de notre précédente discussion un parallèle avec la France dans cette campagne américaine, qui est que à droite on a un candidat populiste assez extrémiste qui déstabilise la droite classique, le camp dont il se les républicains aux États-Unis. Donc on a Donald Trump et un peu son pendant en France, Marine Le Pen. Et puis à gauche, on a le camp démocrate qui est total. Enfin, je peux appeler ça la gauche aux États-Unis, mais enfin, c'est ce qui correspond, qui est totalement divisé entre le candidat ou la candidate, en l'occurrence, de l'establishment, Hillary Clinton, qui pourrait correspondre à François Hollande, et puis la gauche radicale, la gauche de la gauche, qui est incarnée par Bernie Sanders, l'équivalent de américain de Mélenchon, si on veut caricaturer un peu. Mais il y a des différences, mais on assiste à la même dynamique politique très fracturée et fracturante. Il y a un autre parallèle à adresser, c'est que tous ces candidats sont très impopulaires en réalité, dans le sens où ils recueillent un taux d'opinion négative vraiment impressionnant en ce qui concerne à la fois Trump et Hillary Clinton, et c'est un petit peu ce qu'on a en France aussi. Donc ça donne des campagnes très, très polarisées. Alors je voudrais m'attarder un petit peu sur Hillary Clinton, qui se retrouve dans une situation politique tout à fait inédite à plusieurs égards. D'abord parce que c'est une femme, vous l'avez dit, il y a cet aspect historique. Alors là, c'est plus la minorité...
Majoritaire,
c'est la majorité minoritaire, je dirais, parce que les femmes font 53% de l'électorat aux États-Unis, un petit peu plus, je crois, qu'en France. Voilà. Alors, j'ai été assez étonnée de... C'est vrai que c'est historique, mais j'ai trouvé étrange... Enfin, j'ai J'étais surprise par ce battage fait une fois qu'elle a décroché l'investiture, enfin qu'elle a acquis le nombre suffisant de délégués pour être sûre d'être la candidate du Parti démocrate, sur cette dimension historique. Parce que finalement, en Europe, nous, on a eu Margaret Thatcher, on a Angela Merkel, on a eu pas mal de dirigeants scandinaves aussi. L'Inde a eu Indira Gandhi, Israël a eu Golda Meir. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'avait encore pas franchi ce pas du tout. Ça a pris beaucoup de temps. Hillary Clinton, dans son discours à Brooklyn le mardi, justement après à la fin du Super Tuesday, a raconté que sa mère était née le 4 juin 1919, sa mère qui est disparue aujourd'hui, et que c'était le jour où a été adopté le 19e amendement de la Constitution qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est 1919. Donc si elle est élue, elle sera en fonction le jour du centenaire, au moment du centenaire de ce 19e amendement. C'est vrai que pour les États-Unis, qui est donc cette grande puissance, qui a pourtant été vraiment le théâtre de nombreux combats féministes, c'est un jour important. Deuxième chose sur Hillary Clinton, elle joue la carte femme, et c'est un peu un piège. Elle y est poussée par Donald Trump qui la coince un petit peu dans ce coin en l'accusant en insultant les femmes, en tenant des propos sexistes à longueur de discours. Et donc elle se trouve obligée de jouer cette carte qu'elle joue d'ailleurs assez naturellement. Mais cette carte, cette stratégie comporte deux risques, c'est-à-dire d'abord elle risque d'aliéner complètement le vote masculin, et puis surtout ce qui est assez nouveau, c'est qu'elle fait apparaître des divisions au sein des féministes. On voit que finalement ce sont plutôt les féministes traditionnelles de sa génération qui la soutiennent, que les jeunes femmes la soutiennent beaucoup moins, vont plutôt vers Bernie Sanders, qui fait de la résistance, Bernie Sanders, on y reviendra peut-être, et on voit émerger ce que les Américains appellent le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire que on reproche aujourd'hui à Hillary Clinton, certes, elle est une femme, donc ce sont les féministes qui lui reprochent ça, elle est une femme, mais elle est blanche et elle fait partie de l'establishment. Et le féminisme intersectionnel exige d'être non seulement une femme, mais aussi d'une ethnie minoritaire et des classes populaires. Voilà, donc elle ne coche pas toutes les cases. Je trouve ça, je termine là-dessus, je trouve ça assez injuste parce que c'est des critiques finalement qu'on n'a pas formulées, qu'on n'a pas entendues au moment de la candidature de Barack Obama, qui était lui effectivement aussi représenté, avec cette dimension historique d'être le premier noir président des États-Unis. Mais lui, il était métis, il avait été élevé dans des... Il venait de Harvard, donc il faisait partie des élites, etc. Voilà, juste une dernière chose.
Non, malheureusement, non. Michaela Wiegel.
Oui, alors ce qui est intriguant, moi je trouve, et justement c'est bien de parler de cette soi-disant dimension historique, Obama n'a jamais dit lui-même, quand il a été investi, c'est historique. C'est les autres qui l'ont dit. Et ce qui est pour moi très désagréable avec Hillary Clinton, c'est qu'elle met, c'est elle qui la première a dit c'est historique et qui a voulu imposer ce sujet dans les médias, dans la perception. Alors, je pense que c'est très risqué parce que justement, comme on l'a dit, elle incarne l'establishment et elle incarne surtout toute une histoire déjà, c'est-à-dire la famille Clinton, elle est quand même un peu la dynastie régnante. On a vu Bill qui s'est toujours aussi bien simulé une émotion très profonde quand il a...
Simulé, il ne s'immole pas, il
simule. Oui, pardon. Ma prononciation s'améliore pas non plus. Et donc qui s'est mis... justement à verser une petite larme parce que sa femme historique était maintenant investie officiellement quasiment pour mener la bataille, et leur fille devait aussi monter. Alors c'est vrai, je sais qu'aux États-Unis Donald Trump fait pareil, la famille joue toujours un grand rôle, mais pour moi, ça crée quand même encore plus l'impression d'une dynastie qui veut reprendre le pouvoir. Et à mon avis, c'est pas un garant de se faire élire.
Thierry Pêche.
Oui, alors, les évolutions récentes sont sans surprise à mes yeux. J'ai toujours pensé qu'Hillary Clinton sortirait vainqueur des primaires et je pense qu'elle sortira, si tout se passe normalement, vainqueur de la compétition finale. Mais toute cette séquence laisse quand même deux ou trois grandes questions sur la table, parce qu'au fond, cette séquence, elle a quand même été marquée par le rejet des élites de l'establishment, etc. Même si Hillary s'en sort, personne ne peut ignorer le fait que les idées de Bernie Sanders à gauche et les démocrates ont beaucoup progressé. Et finalement, Bernie a perdu, mais ses idées ont un peu gagné. Et elles ont gagné, pas sans raison. Elles ont gagné parce que on compare un peu trop facilement ce qui se passe aux États-Unis à ce qui se passe en France. En réalité, la France est un pays beaucoup plus égalitaire que beaucoup de ses voisins. En revanche, les États-Unis sont un pays où les inégalités ont explosé. La classe moyenne fond comme neige au soleil depuis 30 ans. Les très hautes rémunérations ont atteint des sommets absolument invraisemblables. Et donc, c'est vrai que cette question des inégalités est la première question politique pour les démocrates. Qu'est-ce que Hillary Clinton va faire de ça demain? C'est une question. La deuxième question, c'est que Trump, qui est une espèce de pitre politique incroyable, qui est à la fois sexiste, raciste, opportuniste, etc., a fédéré un électorat de pauvres blancs. Qui pose quand même une question, c'est qu'est-ce que ces gens vont devenir, à quel parti ils vont adhérer. Le parti républicain, s'il perd la prochaine présidentielle, en sera quand même à sa troisième défaite consécutive à cette élection. Normalement, après une telle séquence, on réfléchit, on se remet en cause, on change. Il n'est pas impossible, c'est ce que suggérait Dick Howard récemment dans un papier, que ce parti connaisse une scission. Et probablement, cette scission mettra-t-elle d'un côté les Trumpistes et tous ceux qui ont voulu fédérer le pauvre blanc américain, et de l'autre, un autre parti républicain. Je pense que c'est quelque chose qui est probable et peut-être même souhaitable.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, une remarque politique d'abord. On est aujourd'hui dans une situation de sondage dans laquelle Trump n'est pas très éloigné de Hillary Clinton en termes d'intention de vote. Hillary est en tête, mais pas d'une façon absolument décisive. C'est quand même un événement absolument incroyable. Quand Trump a commencé sa campagne, qu'il a dit des horreurs, j'ai dit, bon, moi je lui ai dit, comme la plupart des gens, je crois, c'est fini, c'est réglé, on va le... Bon, pas du tout. Ça, le peuple américain a surmonté son dégoût, et ça agit comme un vaccin. Il est vacciné contre les horreurs, si je puis dire, contre les horreurs qu'il produit. Et c'est quand même... Et ça entraîne une conséquence. Alors, deuxième remarque, les deux candidats sont très minoritaires, ça a été dit, sont très minoritaires. Ce qui veut dire que la campagne consiste à démolir l'autre. Et ça, c'est d'abord, c'est une sale campagne qui s'annonce, et c'est une campagne dans laquelle Hillary est pas très à l'aise, parce que c'est une femme assez construite, assez positive, assez organisée, qui a peut-être des défauts, mais qui a aussi de très grandes qualités, et elle fait dans le rationnel. Or, on est plutôt dans l'agressif, l'émotionnel, le haineux, et là, son rival est plus à l'aise. Donc là, je suis quand même, de ce point de vue-là, assez inquiet, même si je continue à penser que Hillary Clinton est évidemment grande favorite. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, en fait, ce à quoi on a assisté, c'est un bouleversement total des partis politiques. Regardez le Parti républicain, tous ces thèmes ont été massacrés. Les thèmes du Parti républicain, c'est globalement le moralisme, le moralisme, le libre-échangisme, et le refus d'un État fort. Trump, sur tous ces trucs, c'est un candidat totalement immoral, avec cette, effectivement, douce, la plaisanterie des Américains, puisqu'il a été marié trois fois, en disant qu'il a été marié trois fois avec des étrangères, ça prouve quand même qu'il y a des boulots que les Américaines n'acceptent pas à faire. Hein. Donc, il cultive quand même un très grand immoralisme, il est protectionniste, Et il n'est pas du tout indifférent au big government, au contraire, enfin, il est très confus sur cette affaire-là. Et du coup, il a d'ailleurs complètement éclaté le Tea Party. Ted Cruz, on dit qu'il citait toujours le mot de Harry Truman, si vous voulez un ami à la Maison Blanche, prenez un chien. Et on dit qu'il a pris un chien et que le chien l'a mordu. Enfin, il est éliminé. Donc, le Tea Party, malgré le soutien de Sarah Palin à Trump, est complètement éclaté. Je crois que Thierry a raison. Et du côté démocrate, c'est la même chose. Le cœur de l'électorat démocrate, c'est la classe ouvrière, c'est l'école bleue syndiquée. Tous ceux-là sont totalement sensibles à des thèmes nationalistes, xénophobes, si bien que Hillary Clinton se retrouve avec les autres appuis du Parti démocrate, qui sont toutes les minorités, y compris la minorité majoritaire dont nous parlions. Mais les hispaniques, les noirs, les jeunes au chômage, tout ça, ça forme quelque chose de tout à fait inattendu. Donc on est un peu comme dans la situation, je termine par là, vous vous souvenez de ce magnifique film qui s'appelait « Tempête à Washington » où le Congrès devait voter, le Sénat devait voter sur l'agrément donné à un secrétaire d'État qui était joué par Henri Fonda. Les Fingal, il s'appelait, si je me rappelle bien. Et à la fin, comme tout le monde était paumé, les chefs disent « bah chacun votera comme il pourra ». Et bon, il y a un vote à la fin, mais en réalité, c'est l'Amérique entière qui en est là. Les dirigeants sont complètement perdus et on ne sait pas du tout ce qui va sortir de ce remodelage complet des familles politiques traditionnelles. Alors que The American Voter, la grande thèse du Michigan, disait que depuis toujours, de l'Université du Michigan, que les républicains se recrutaient parmi les républicains, c'était les fils des républicains, les démocrates, c'est les fils des démocrates. Bah maintenant, les gens sont les pères de personne et les fils de personne.
Si vous avez l'occasion, en effet, voyez ou revoyez Tempête à Washington.
Ah oui, c'est magnifique.
Otto Preminger, Charles Slaughton. Sylvie Kaufmann.
Oui, la question qu'on se pose dans le camp démocrate à propos de Donald Trump, c'est est-ce qu'on a affaire à un personnage exceptionnel et qui sortira du paysage, ou bien est-ce qu'on a vraiment, ou est-ce qu'il incarne une évolution très profonde au sein du Parti républicain qui risque de le faire éclater. Et là, en ce moment, je crois qu'on assiste à quelque chose d'assez important, au niveau de la rhétorique, mais qui marque un tournant dans le débat politique américain. C'est-à-dire que Donald Trump, en attaquant ce juge qui est compétent dans une des affaires sur lesquelles il est poursuivi, la Trump University, je ne vais pas y passer trop de temps, mais enfin c'est une affaire assez éclairante sur ses méthodes. Il avait créé une pseudo-école d'immobilier pour apprendre aux gens à devenir Donald Trump, en fait. Bon. Et pour la maigre somme de $35,000 par mois. Par an, et donc il est poursuivi. Et le juge est compétent dans cette affaire s'appelle Gonzalo Curiel. Et Donald Trump l'a accusé de ne pouvoir être neutre ou objectif dans cette affaire, puisque, dit-il, c'est un Mexicain. Il se trouve que ce monsieur est né en Indiana, qu'il a fait toutes ses études aux États-Unis, que son frère est mort, a combattu au Vietnam, ce que n'a pas fait Donald Trump, qui s'est débrouillé pour ne pas y aller, et que c'est en fait un pur modèle de la réussite de l'immigration américaine. C'est un juge fédéral, donc important. Et là, je crois que Donald Trump a fait quelque chose de grave, parce que du coup, les républicains classiques, là vraiment ça les a réveillés, ça a touché une corde très sensible, parce qu'il remet en cause à la fois l'assimilation, qui est un principe vraiment fondamental de la culture américaine, et l'ordre judiciaire, le pouvoir judiciaire, et donc, partant, l'état de droit. Et donc on assiste là maintenant à vraiment une grosse réaction très forte des républicains classiques qui l'accusent de racisme, de fascisme. Alors nous on trouve ça évidemment très excessif parce que en Europe on a connu le fascisme contrairement aux États-Unis, mais ce sont des mots qui sont de plus en plus utilisés dans le débat et par des gens sérieux. Et je crois que là il faut accorder pas mal d'importance à cette discussion.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais ouvrir à la demande générale en restant aux États-Unis et en recommandant une mini-série produite par David Simon, qui est celui qui avait produit The Wire en français sur écoute, et Trémé, The Wire sur Baltimore, avec une formidable connaissance de tout Baltimore. Il avait été lui-même journaliste chargé des faits divers et il a produit également Trémé, qui est sur la Nouvelle-Orléans après Katrina, après l'ouragan Katrina. Là, c'est avec la même connaissance, mais il s'intéresse à une ville de l'État de New York, Yonkers, qui est un tout petit peu au nord de New York. Et la mini-série s'appelle « Show me a hero »,« Montrez-moi un héros », c'est une citation de Francis Scott Fitzgerald, « Montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie ». C'est-à-dire, derrière le héros, il y a nécessairement une tragédie, et c'est cette tragédie que raconte « Show me a hero », qui est une histoire vraie, évidemment, comme toujours d'ailleurs avec David Simon, l'histoire d'un jeune homme qui a été le plus jeune maire d'une ville aux États-Unis et qui doit à la fois affronter les magouilles de la politique classique et en même temps l'agitation à l'intérieur d'une ville saisie par un projet d'implanter quelques centaines de logements sociaux dans des quartiers blancs de la moyenne bourgeoisie, soulevant par là en fait une tempête qui met à jour ce qui est la véritable ségrégation, c'est-à-dire celle qui n'est pas dans les textes mais qui est dans les faits. La finesse avec laquelle, comme d'habitude, David Simon produit ça, donne quelque chose de très remarquable. Alors cette mini-série est diffusée, chacun d'entre vous peut voir selon son abonnement s'il peut y avoir accès, mais elle est aussi accessible en DVD. Jean-Louis Pouy.
Oui, il avait donné des entretiens avec Barack Obama, oui. Qui étaient passionnants, dans lesquels il se révélait être un fervent défenseur de la légalisation du cannabis d'ailleurs. C'est des entretiens qui méritent d'être lus.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais citer et appeler à lire le livre de le journal politique de Michel Vinocq. Il s'appelle La République gaullienne parce que c'est un journal, c'est son journal, 1958-1981. Alors c'est Michel Vinocq, c'est un historien de lui-même, c'est une sorte d'un historien qui produirait ses propres archives. C'est-à-dire que c'est un journal, croix de bois, croix de fer, il n'a rien ajouté, rien modifié, il a retranché ce qui lui paraissait pas très intéressant, et donc on a, et quelquefois on sent bien d'ailleurs son étonnement, parce que on voit bien que la façon dont il réagit à ces événements, c'est même pour lui, semble-t-il, une certaine inquiétude. Et je trouve ce livre est remarquable, d'abord parce que c'est très bien écrit, ensuite, vraiment, Michel Vinocq est un esprit très lucide. J'étais en désaccord avec lui sur ces aspects institutionnels qu'il a développés avec Bartholone, mais ça n'empêche pas. Et notamment, on voit deux choses. On voit d'abord une très grande lucidité sur l'affaire algérienne. Très vite, très tôt, il a compris cela. On voit également une très grande fidélité à des valeurs républicaines, une hostilité à la Ve République qui nous porterait à la sévérité si on ne voyait pas les ravages de l'égocentrisme politique actuellement. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est une sorte d'embarras fondamental d'un homme de gauche authentique devant à la fois l'Amérique et le capitalisme. On sent que jusqu'à récemment, même peut-être encore maintenant, la gauche a énormément de mal à avoir une vision sereine, tranquille, de ce qu'est le monde économique et les alliances occidentales dans lesquelles
nous sommes. Sylvie Kaufmann.
Alors moi, je voudrais inviter ceux qui sont à Paris à aller voir deux expositions entre deux matchs au Stade de France qui sont très, très, très belles. L'une, c'est celle de Seydou Keïta, le photographe de Bamako, qui est au Grand Palais jusqu'au 11 juillet, donc il faut en profiter encore. Ce sont des photographies absolument extraordinaires, ce sont des portraits qui ont souvent été réalisés dans la cour du studio qu'il avait ouvert en 1948 et qui ont été réalisés jusqu'à 62. C'est vraiment magnifique avec cette mise en scène. C'est un très grand portraitiste de l'Afrique. Et juste alors très rapidement, une petite exposition charmante qui est celle des chefs-d'œuvre de Budapest au musée du Luxembourg. Aussi Michael jusqu'au Lavigue. 10 juillet.
Oui, Michael il faut Lavigue. Que nous réveillons assez, en quelque sorte, ce qu'écrit Sylvie Goulard dans son essai Goodbye Europe. Le titre est un peu, il insinue qu'elle dit goodbye à l'Europe, mais c'est absolument pas, c'est un vrai, véritable plaidoyer de prendre au sérieux les enjeux du Brexit et surtout de ne pas se contenter de suivre en quelque sorte ce qui se passe actuellement. Donc je recommande vivement la lecture de ce livre.
Thierry Pêche.
Moi je voulais rendre hommage à la mémoire de Mohamed Ali, qui a dit son été aux États-Unis il y a encore quelques minutes, restons-y un peu plus, qui a à la fois transformé son sport, il en a fait quasiment une catégorie de la danse, quand on le regarde boxer dans les images d'archives, c'était fantastique, c'était un homme d'une élégance absolument incroyable, et qui a aussi fait du ring une scène politique, pour le meilleur le plus souvent, quelquefois pour le pire, mais souvent pour le meilleur, en incarnant, en donnant un sens à sa rage, et en fédérant autour de lui de nombreux espoirs de la communauté noire, des droits civiques, on se souvient de cette époque. Je crois que l'Amérique lui a rendu un grand hommage et il le méritait.
Il y a dans les images du cortège qu'il conduisait jusqu'à l'église où il a été enterré, il y a un gamin noir qui suit le cercueil et qui boxe un peu en dansant, justement, comme vous venez de le dire pour Mohamed Ali. Vous avez rendez-vous maintenant avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine. Il s'agit de la table ouverte de l'ogre Hugo, et c'est un théologien luthérien, un professeur de théologie patristique et d'histoire de l'Église, Jacques-Noël Pérez, qui va parler de l'humour et de l'amour de la table présent dans toutes les œuvres de Victor Hugo. On se souvient de la phrase célèbre des Misérables. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Jean-Louis Deloncle, Romain Lenoir et Bastien Varigaud. Il me reste à remercier le public du Studio 105 qui nous a soutenus par la concentration avec laquelle il nous a écoutés. Et nous souhaiter de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.